finir, avant d'aller manger, nous allons revenir sur le prix Liberté dont Maëva vous avait parlé tout à l'heure. Notre classe était présente mardi au Zénith. On vous laisse écouter le bilan de la journée.
L'émission Société, on vous en dit plus sur la société.
Vous êtes toujours sur Radio Anneau 61, donc aujourd'hui une émission spéciale sur le thème de la société. Nos élèves de seconde 6 se sont rendus mardi au Zénith de Caen pour l'organisation du prix Liberté. Ce prix s'est déroulé sur toute la journée, un temps le matin où ils ont présenté leur production et l'après-midi où il y a eu la cérémonie de remise des prix du prix Liberté. Pour l'occasion, nous avons demandé à nos élèves d'organiser une petite émission tout au long de la journée. C'était le fil rouge, donc je vous laisse tout de suite avec Gaspard en direct du bus sur la route de Caen.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaspard et aujourd'hui nous allons à Caen avec la classe radio pour le prix Liberté. Ce matin, nous allons présenter nos projets pour ce prix avec 5 classes de la région. Salut Amadou, qu'est-ce que tu as présenté pour ce matin?
Avec Gaspard, Timéo, on a présenté la vie de Simon Higel.
Et toi, Timéo, qu'est-ce que t'en as pensé?
Je pense qu'il a eu une vie horrible et que ça m'a appris à comprendre comment les Juifs vivaient à Auschwitz.
Après une heure de trajet, nous sommes arrivés au Sillon, dans le quartier Chemin Vert de Caen. Tout de suite, Lilou va nous présenter le lieu de notre rendez-vous de ce matin.
Alors du coup, là, on vient de descendre du bus et on se trouve en face du Sillon. C'est le bâtiment où nous allons rentrer pour voir... Alors le bâtiment, il y a des baies vitrées. Et il y a une espèce de grille dessus en aluminium ou en fer, je sais pas c'est en quoi, avec des trous.
Nous sommes accueillis par toute l'équipe du Prix Liberté. Ils sont habillés pour l'occasion en orange et à l'entrée se trouve Julien, notre coordonnateur sur Zone d'Onde. Les filles, ni une ni deux, se lancent dans son interview.
Bonjour, nous sommes devant le Sillon à Caen où va se dérouler la séquence jeunesse du Prix Liberté.
Bonjour Julien, qu'avez-vous prévu pour cette matinée?
Bonjour, alors en fait cette matinée, donc pendant 2 heures, vous allez avoir une rencontre entre des lycéens et un grand témoin qui s'appelle Pascal Vanier. Et l'objectif, en fait, les lycéens ont préparé des vidéos de 4 minutes autour d'une thématique, la communication pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc l'idée, on va projeter les vidéos, on va interagir avec l'invité et avec le public. Et donc ça va durer pendant 2 heures. Et donc dans les vidéos, il y a par exemple, il y a un établissement qui a travaillé sur Enigma, il y en a qui ont fait un reportage en direct des plages du débarquement. On a aussi une vidéo sur un résistant qui s'appelle Monsieur Leblanc. Voilà, il y a énormément de... Il y a 8 sujets qui ont été préparés et donc qui vont être diffusés aujourd'hui.
D'accord, merci.
Nous sommes en direct des gradins, le stress est à son comble, les élèves sont prêts à passer. La sélection a été faite, nous attendons plus que le résultat. 5 classes de 5 établissements sont réunies dans les gradins. On passe maintenant au verdict. Les garçons, qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance feutrée?
La tension est palpable. Nous allons bientôt pouvoir voir qui a gagné.
Le jury en coulisses a annoncé les sélectionnés pour le lycée Jean Guénaud. Nous aurons donc sur scène Ryan, Elsa, Jade et Lila qui ont travaillé sur la photoreporter Les Miller. Nous vous retenons au courant un peu plus tard. Chers auditeurs, bonne journée.
Tous, on est très contents de vous accueillir dans ce lieu magique de culture qui s'appelle le Sillon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Antoine, je fais partie de l'action Reporter Normandie Jeune sur la partie Web TV. Et puis bien sûr...
Donc Julien, donc de l'association Zone d'Onde pour la partie radio. Merci à vous d'être venus aujourd'hui et je pense qu'on peut déjà aussi tous s'applaudir pour le travail que vous avez réalisé cette année.
C'est à vous, les filles.
Alors bonjour à tous, du coup on est réunis aujourd'hui dans le cadre du Prix Liberté et aussi de la séquence jeunesse du dispositif Reporter Normandie Jeune, donc RNJ. Et RNJ du coup c'est une action de la région Normandie qui implante des médias dans les lycées, les CFA, les MFR et autres établissements locaux. Donc les établissements choisissent soit de faire de la TV, soit de faire de la radio. Donc la TV ça va être avec l'association culture et nature et la radio avec l'association Zone d'Onde. Donc une trentaine d'établissements bénéficient chaque année de ce dispositif. Ils s'inscrivent alors dans un cycle de 3 ans durant, à la fin duquel ils ont acquis une certaine autonomie dans l'utilisation du matériel radio ou TV. Aujourd'hui, 6 établissements qui ont participé ou qui participent actuellement à ce cycle de 3 ans ont réalisé des productions que nous verrons un peu plus tard.
Les classes des différents établissements sont passées. Il ne reste plus que le lycée Jean Guénot qui va terminer la journée. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission qui avait été sélectionnée par le jury. Puis, parce que nous avons réalisé 7 autres émissions, nous allons en passer une deuxième.
Un reporter de guerre, c'est quoi ? Un journaliste qui se rend dans les zones du conflit pour nous informer des événements qui s'y passent. Ce sont nos yeux et nos oreilles. Il recueille des informations dans des conditions souvent difficiles. Il mène ses enquêtes, vérifie des informations et recueille des témoignages et des images. Ces enquêtes sont diffusées sous forme de reportages dans la presse écrite, à la télévision ou encore à la radio. Durant la Seconde Guerre mondiale, il existait de nombreux reporters de guerre, comme les plus célèbres en France, Jacques Poudensan ou Albert Londres. Mais il n'y avait pas seulement les hommes qui participaient à cette guerre, les femmes aussi avaient un rôle important. En effet, avez-vous déjà pensé au rôle des femmes pendant la guerre ? On va vous présenter le nom d'une de ces femmes reporters de guerre qui vient de l'autre bout du monde. Grâce à elle, on a pu montrer les horreurs de cette période sombre de l'histoire.
Sachant que la Grande Guerre a surtout été photographiée par les services des armées, celle de 1940 a quant à elle fait l'objet d'une large couverture par des journalistes et reporters de guerre de tous les pays. Et c'est dans ce contexte que de nombreuses femmes se sont illustrées comme dans la Résistance. Il y a eu près de 120 femmes reporters de guerre accréditées pendant le conflit, venant des 4 coins du monde. L'Union soviétique, la France, la Grèce, la Finlande, les Pays-Bas, la Norvège, les États-Unis et même d'Afrique du Sud. Contrairement aux conventions de l'époque, ces femmes reporters se sont imposées dans un monde d'hommes parfois très sexiste, ce qui a pu rendre la société américaine plus ouverte.
Parmi ces femmes, on peut retrouver Lee Miller, qui est née aux États-Unis en 1907 et elle est élevée à égalité avec ses frères. Elle fait des études de théâtre et d'art plastique, puis en 1927, elle est représentée par le fondateur du magazine Vogue, dont elle fait la une. En 1929, elle quitte les États-Unis pour Paris. En 1930, elle crée son studio photographie, où elle publie ses photos sous le nom de son amant, Man Ray. Suite à leur rupture, elle retourne aux États-Unis en 1932 et réouvre un studio photo. 2 ans après, elle se marie et part vivre au Caire, où elle photographie les sites archéologiques et le désert. Mais elle repart à Paris en 1937 et va à Londres au début de la guerre. En 1942, elle est accréditée par l'US Army et prend des images du Blitz. Durant l'été 1944, elle devient correspondante de guerre au sein de l'armée américaine sur les terrains de guerre. De 1944 à 1946, elle suit la 83e division depuis le débarquement en France jusqu'en Roumanie, Allemagne, Autriche ou encore Hongrie. Lors de la libération de Saint-Malo en août, la ville est assiégée par les Allemands et Lee assiste à l'assaut des troupes américaines. Elle témoigne.
Des obus firent dégringoler d'autres blocs de pierre dans la rue. Je me réfugiais dans une tranchée boche. Derrière les remparts, mon talon écrasa la main d'un mort et je me mis à maudire les Allemands pour l'effroyable et meurtrière destruction qu'ils venaient de provoquer dans cette ville jadis si jolie.
Lee, qui n'avait pas été autorisé à se retrouver sur le front, est arrêté et son accréditation annulée.
Mais il en faudrait plus pour freiner ses élans. Lee Miller témoigne par ses images et ses textes sur la vie quotidienne des soldats. En 1945, elle découvre les camps de concentration de Dachau. Elle est la première reporter dont les photos révèlent l'horreur des camps. Elle est confrontée à des tas d'ossements humains, des cadavres empilés les uns sur les autres et des survivants squelettiques. Des photos rares dont il n'existe que quelques clichés. Elle partage son expérience dans un de ses récits.
Dans les quelques minutes qu'il m'a fallu pour prendre ces photos, 2 hommes sont morts et on les a extirpés sans ménagement pour les jeter sur les tas devant le bloc.
Elle dit aussi
« Lorsque j'en suis sortie à la fin de la journée, j'avais perdu la notion du temps. Je n'étais plus la même. Ma façon de regarder la condition humaine, le monde dans lequel nous vivons, avait changé. »
Après avoir vu toutes ces horreurs, elle s'installe quelques jours à Munich dans l'appartement privé d'Hitler afin de tourner un nouveau reportage pendant son absence. Le même jour, il se suicide dans son bunker. Elle raconte son séjour.
L'endroit était en parfait état. L'électricité et l'eau chaude fonctionnaient. Il y avait même un réfrigérateur électrique. C'était confortable, mais il y avait quelque chose de macabre à dormir sous l'oreiller d'une femme et d'un homme qui venaient de mourir, tout en se réjouissant de leur mort, si c'était bien le cas.
Après la guerre, elle voyage en Europe jusqu'en 1946 pour photographier la dévastation. Enfin, Elle retourne à Londres où elle est tentée par les horreurs qu'elle a vues après la guerre. Elle devient alcoolique, dépressive et elle meurt en 1977.
La deuxième émission que nous allons vous proposer a été réalisée par Ezra, Maria, Nissa et Sélène et elle s'intéresse au soldat allemand Heinrich Severlo qui a combattu sur les plages du débarquement du côté allemand. Donc elles se sont mis dans sa tête et elles nous ont raconté du coup le débarquement d'Omaha du côté des Allemands. Je vous laisse tout de suite l'écouter.
L'émission Société, on vous en dit plus sur la société.
Ce récit ne doit pas être compris comme une justification, je voulais simplement rapporter en toute honnêteté des événements qui ont marqué ma personne et ma vie. Heinrich Severlo.
Heinrich Severlo a été désigné soldat volontaire à 17 ans. Lui et son unité, la R321, ont été envoyés dans le nord de la France, puis il est muté sur le front de l'Est. Après s'être blessé, il retrouve son unité, la R321, devenue la R353, le 11 décembre 1943. Peu après son arrivée dans le village de Sainte-Michel-de-la-Pierre, il commence un entraînement par August Wasermeier qui y va tellement fort.
« On est en guerre ici, pas chez vous !»
que Heinrich subira des moqueries quotidiennes par ses camarades.
J'étais volontaire à devenir soldat, mais je ne savais pas tenir mon arme. Je tirais partout et dans tous les sens. J'étais devenu l'affront de l'unité, on me surnommait même l'abruti.
Apprends à tenir ton arme, crétin, t'es borgne quoi ?
Dans la nuit du 5 au 6 juin, le commandant de l'unité ordonne au lieutenant Freking de retourner à son poste de Colvin-sur-Mer le plus vite possible.
Freking, retournez à votre poste tout de suite.
Il y va alors accompagné de Heinrich. En arrivant, il fait encore nuit. Mais il s'assoit directement à son poste d'observation devant sa mitrailleuse MG-42 placée à droite du poste d'observation du lieutenant Freking. De leur poste, ils entendaient le bourdonnement des vagues et des avions alliés survolant la côte. Vers 5 heures, Heinrich voit de son poste de plus en plus de bateaux arrivant droit vers lui. Au début, il n'en voyait que 5, puis 6, et finalement, derrière tout le reste de la flotte de débarquement, les bombardements alliés commencent. À 6h30, après le bombardement allié et les tirs d'obus de roquettes des Américains, les GI américains débarquent en masse sur la plage.
« Sortez vite des péniches, tout sur la plage !»
Heinrich commence à donc les prendre pour cible. Il fait 1200 tirs à la minute pendant plusieurs heures grâce à l'adjudant-pied qui le ravitaille en munitions. Le massacre commence dès le début. À midi, il épuise son stock de munitions.
Je perds la tête, que faire ? Je dois tuer tout le monde.
Heinrich devient littéralement fou et utilise des balles traçantes, ce qui révèle sa position à l'ennemi et créa un bain de sang sur la plage. Le sable doré et beau ne sera que boucherie et cadavres. Il se fait alors bombarder par les navires américains à son poste de tir, mais il est seulement blessé par un éclat métallique à la joue qui finira par empester son œil. Il verra de moins en moins et hurlera de rage. À 15h30, l'infanterie américaine gagne du terrain. Le lieutenant Freking ordonne donc un repli des survivants de sa position.
Il gagne du terrain, on dégarpille, dépêchez-vous, vite !
Ils ne sont plus beaucoup et parviennent sous les tirs des Américains à se replier. Heinrich est blessé à la joue à cause d'un fragment d'obus et en quelques instants, sa blessure va gonfler, ce qui va l'empêcher de pouvoir tirer. Il ne reste que Heinrich, son chef, un soldat et deux caporaux. Les soldats amantes quittent les lieux sous les tirs américains. Le lieutenant Freking fut tué par 3 soldats. Vers 17h, il arrive au point d'appui 63, camouflé sous une butte de terre, juste à la limite de Colville et au bord de la route allant jusqu'à la plage. Plus tard dans la journée, les GI veulent savoir combien sont-ils.
Déposez vos armes et vos munitions.
Il ne reste que 18 soldats et 5 prisonniers sont tous blessés. À 18h30, les Allemands contre-attaquent. C'était puissant, mais les Américains ont réussi à les maîtriser. À 20h, les chars s'installent en haut de Vierville. Mais le lendemain, Heinrich et sa troupe se rendent et deviennent prisonniers des Américains.
Tout ce combat, le sacrifice de soi, cet énorme investissement d'énergie physique et psychique, la peur, les souffrances et cette effrayante tuerie, tout cela aurait été vain. Je pense également à Freaking et je sens les larmes monter aux yeux et couler, toutes chaudes, sur mon visage boursouflé. Voilà, c'est fini.
Monsieur Severlo a donc tiré environ 12 500 cartouches de mitrailleuse et 400 avec un fusil.
Ce cauchemar s'arrête, je n'en peux plus.
Après la guerre, il fut interné aux États-Unis et en Angleterre avant de pouvoir enfin rentrer chez lui en Allemagne. Il a pu reprendre une vie normale, mais les souvenirs odieux de ce jour l'ont hanté jusqu'à la fin de sa vie.
À cette circonstance s'est ajouté le fait que je ne pus faire autrement que de défendre ma vie par la force. Personnellement, j'ignorais tout sentiment d'hostilité, mais je me suis battue d'instinct de toutes mes forces.
La matinée se termine au chemin vert. Nous devons prendre maintenant la direction du Zénith de Caen, où l'organisation nous attend pour rentrer dans le Zénith. Mais avant cela, petite pause repas. Je laisse la parole du coup à nos chers élèves du lycée Jean Guénot, qui vont se faire un plaisir de vous présenter le panier pique-nique du lycée Guénot en sortie.
Unboxing du pique-nique de Jean Guénot. Alors en plat, nous avons un sandwich, des chips à l'ancienne, une bouteille d'eau.
Ensuite, en dessert, nous avons une pomme, une compote à la pomme, un Mars et une madeleine aux pépites de chocolat.
Comme vous vous en doutez, ils se sont forcément régalés. Et après ce magnifique repas, nous nous sommes rendus à l'entrée du Zénith où 4500 lycéens étaient réunis pour assister à cette cérémonie. Je vous le dis tout de suite, elle fut forte en émotion car de nombreuses surprises ont eu lieu lors du déroulé de l'événement. Je vous laisse tout de suite avec l'introduction de cette cérémonie au prix Liberté 2024.
À l'aube de nos jours restants, debout face à face.
At the dawn of our remaining days, standing face to face.
Rien n'empêchera la marée descendante d'emporter avec elle le sang mêlé de nos haines.
À l'aube de nos jours vieillissants, debout face à face, laissons s'écrouler nos châteaux ambitieux de sable et de sceaux.
Et ouvrons nos frontières à nos peurs et nos pères.
À nos sœurs et nos mères, voilées dans les vagues de l'histoire de l'homme, sans oublier nos armes et nos forces unies face à ceux qui tenteraient de désarmer nos droits.
Nos droits, oui, acquis. L'homme, la femme, l'enfant et le citoyen ont été attribués à vie.
À l'aube de ce jour naissant, débarquons. Au souvenir de nos 80 printemps, envahissons pour que la liberté résonne au cœur de nos corps encore éternels.
At the rise of this dawning day, let us land for freedom to resonate at the hearts of our bodies, still eternal.
À l'aube de nos jours restants, debout, face à face, rien n'empêchera la marée descendante d'effacer le sang mêlé de nos haines.
Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Et plus que jamais, cet après-midi, le Zénith, vous êtes ses défenseurs. Est-ce que ça va? Vous êtes ces défenseuses et ces défenseurs. Et moi je suis Raphaël Yem, j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant toute cette après-midi. Je suis ravi d'être parmi vous. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette cérémonie. Mesdames et messieurs, la 6e édition du prix Liberté. Vous êtes dans cette salle, plus de 4500. Vous nous suivez via le stream sur internet de partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin 2024 et vous savez, il y a quasi 80 ans, presque jour pour jour, à l'aube du 6 juin 1944, se préparait le débarquement, une armada de 7000 bateaux qui va bientôt approcher les côtes normandes. À leur bord, 133 000 hommes qui se préparent à débarquer sur les secteurs d'Utah, d'Omaha, de Gold et de Juno, de Sword, alors qu'une grande opération de bombardement aérien et naval a précédé cet assaut. Le soir du 6 juin, ce sont plus de 156 000 soldats, 156 000, j'en suis tout ému, soldats alliés, dont 23 000 parachutistes, 20 000 véhicules qui sont sur notre sol, le sol normand. Le soir du débarquement, on dénombre 10 300 combattants alliés qui ont été tués, qui ont été blessés, faits prisonniers ou portés disparus. Pour la plupart, ils n'avaient pas beaucoup plus que votre âge. Quand ils se sont élancés, le cœur vaillant et parfois à corps perdu, sur nos plages. Ils s'appelaient Charles, Léon, John, Alvin, William, Edward, Carlton, Harry, Dick, Robert, Gordon, Simon, Claude, Jérôme. Ils ont combattu pour notre liberté. Ils ont combattu pour la liberté. Mesdames et messieurs, ici le Zénith. Je vais vous demander d'un bloc de vous lever maintenant pour accueillir ici dans cette salle les 48 vétérans. 80 ans après, ils sont là parmi nous et je vous demande de leur réserver le meilleur accueil que vous pouvez. Je veux, mes chers amis, ici, que vous mesuriez la chance d'être ensemble et de vivre ce moment si singulier, chargé d'émotions, chargé d'histoire. Le Zénith, les applaudir encore plus fort. Thank you so much to be here with us. Merci d'être avec nous ici au Zénith. À vous, messieurs, chers vétérans, qu'il y a en Normandie cette voix de la liberté, qu'elle s'exprime d'abord à travers l'infinie gratitude qui est la nôtre. À votre égard, si la Normandie est une terre de mémoire, elle est aussi, avec ce prix Liberté, le lieu où cette voix de la liberté continue de résonner. C'est celle qui continue d'affirmer que la liberté est un droit fondamental et universel. C'est la voix de celles et ceux qui, aujourd'hui comme hier, combattent partout dans le monde pour faire respecter ce droit. C'est ce pont entre le passé, le présent, l'avenir, que vous avez jeté il y a 80 ans et du lien qui s'est tissé depuis. Ce combat, messieurs, reste vivant ici en Normandie et il se transmet grâce à vous. Il est notre passé, notre présent et notre futur. Liberté, le Zénith avec moi. Liberté, 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 liberté. Andy, s'il y avait une chose à retenir, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ces jeunes qui sont avec nous 80 ans après? If there is one, only one thing you would like all these 4,000 young people in front of you here in the Zenith, what would you want to tell them today, 80 years later?
You want me to say something to
them? Yeah, to them. What do you want to transmit to them?
My advice to you children is I did not have, when I came out of high school, I did not have a time to go to school or anything like that. 2 weeks after I graduated out of high school, Uncle Sam says, I need you, and he took me. I didn't go to a military school or a college or anything like that. I didn't have to, because the Uncle Sam says, I want you first, and he took us. That's 2 weeks, I was 19 years old. So remember this to all of you. You're in school for an education. Take advantage of that education. Learn what you possibly can, because this is your future. You are the ones that's going to run France later on in your life once you're growing up. My advice to you is do good, listen to your teachers, make a focus on graduating out of high school, and make sure you make something of yourself. Thank you very much.
Je voudrais, les amis, maintenant vous dire que notre lauréat cette année, qui est Motaz Azaïza, photoreporter palestinien, qu'on va récompenser dans quelques instants pour son combat à la faveur du droit à l'information, a beaucoup hésité avant d'être parmi nous aujourd'hui, parce que, évidemment, très affecté par la situation dans les territoires palestiniens, aujourd'hui, la liberté n'est pas pour lui une célébration, mais un combat. Un combat pour sa vie, un combat pour la vie de ses proches. C'est donc avec une certaine pudeur et le sentiment d'une forme de gravité, de solennité, que je vous demande d'accueillir M. Motaz Azaïza, le lauréat du prix Liberté 2024. Il couvre le conflit au cœur de Gaza. Son combat pour le droit à l'information permet de diffuser des informations sur le conflit, de mettre en lumière les destins des populations affectées par cette guerre. Cette couverture lui a valu de figurer parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde en 2024, selon le magazine Time. Il a shooté l'une des 10 photos de l'année, selon le même magazine. Il est suivi par plus de 20 millions de followers sur les réseaux sociaux. En janvier 2024, il a quitté Gaza pour rejoindre le Qatar suite à l'interruption des communications décrétées par Israël. Il continue de s'engager pour la liberté de la presse et la protection des journalistes. Mon cher Motaz, nous allons vous remettre symboliquement ce prix Liberté.
Merci. Thank you so much. Assalamu alaikum. Peace upon all of you. Today you are celebrating for 80 years of peace and freedom. But today for me, it's been more than 76 years of occupation and no freedom for my country, Palestine. First, allow me to thank the Freedom Prize for inviting me and giving me this opportunity to speak and deliver the information, giving me the freedom that I was going to lose my life for it. But here I have access for it, free, safe, and in front of all of you. I would like to thank you all for the support and the support of the free press and speech, especially at this point in time where journalists are under such a threat in Gaza, in my homeland, and around the world also. I really appreciate this opportunity. It means a lot. All what I care about with this opportunity is just to represent my country, where a lot of evil people are trying to remove Palestine from the globe. But we are alive.
Motaz Azaïza est le lauréat de cette 6e édition du Prix Liberté. Thank you so much. Shukran. Merci beaucoup. Patrick Chauvel, à qui il revient justement de dire le dernier mot de cette cérémonie. Vous, mon cher Patrick, qui avez couvert les conflits majeurs de ces 50 dernières années, Qu'est-ce que vous avez envie de dire en guise de conclusion de cette cérémonie si particulière à plus d'un titre, voire peut-être aussi de transmettre à votre confrère qui vient de recevoir un prix?
C'est dans les silences et le souffle entre les phrases qu'on comprend la douleur de Motaz. Mais j'ai déjà entendu ce silence et ce souffle de tristesse qui, d'ailleurs ça m'arrive là aussi, entre les mots. C'était, parce qu'il faut en parler aussi, un photographe israélien, Eldad Rafaeli, juste après le 7 octobre et l'attaque épouvantable qu'a subi Israël. Je suis désolé, c'est ce qui s'est passé aussi. Et la réponse extrêmement violente d'Israël. Mais il y a aussi des photographes dans le monde entier qui ont du mal à parler de ces histoires. Moi, je me souviens de la voix de cet enfant. C'était en Syrie. Il était mourant. Il a appelé le médecin. Le médecin, lui aussi, a eu ce silence entre deux mots parce qu'il n'arrivait pas à parler. Comme Motaz, comme Eldad, comme mon fixeur photographe en Ukraine qui a été tué. À chaque fois, on a un silence. Et cet enfant qui savait qu'il allait mourir, il devait avoir peut-être 8 ans, a dit « Je vous préviens, vous les adultes, et filme-moi bien, je vais tout dire à Dieu ce que vous les adultes nous avez fait à nous les enfants. » Donc mon métier, c'est d'essayer de vous le dire à vous, avant que ça arrive à Dieu, qu'on ne paye pas le prix fort et qu'on ne le regrette pas, quel que soit le Dieu. Motaz a fait son travail. Il a parlé des civils, il a montré les civils, il est un civil. C'est un autre monde, les civils. Il y a les civils en Ukraine, il y a eu les civils en Israël, il y a eu les civils dans d'autres guerres. En Normandie, il y a eu plus de 30 000 morts pendant la bataille de Normandie. Notre métier, on est photographe de guerre, mais on finit toujours par arriver sur les victimes innocentes qui sont les civils. Donc moi, je parle au nom des civils alors que je suis un photographe de guerre.
Merci Patrick Chauvel, merci d'avoir présidé ce jury.
Il est maintenant l'heure de rentrer en direction de Flair. Mais avant de vous quitter et de mettre fin à cette émission, il est quand même nécessaire de demander l'avis à nos chères têtes blondes de ce qu'ils ont pensé de cette journée. Nous avions confié la tâche à Nissa et Ezra de recueillir les retours de leurs camarades. Ce fut fort compliqué et donc elles étaient prêtes à tout, comme vous allez pouvoir l'entendre maintenant.
Nage ? T'es chaud, t'enregistres, tu dis non et tout.
Si, s'il
te plaît. S'il te plaît. Merci, enregistre.
Vous venez de découvrir les coulisses de Radio Zone 61. Maintenant, écoutons les véritables réactions de nos élèves de seconde 6.
Dites-nous ce que vous avez pensé de cette journée à
Moi, j'ai bien aimé, il y avait une bonne ambiance et tout, les musiques, elles étaient trop bien.
La journée de mardi, c'était pas mal parce qu'on a pu voir des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des musiques entrecoupées, des spectacles. L'ambiance était bonne, les gens réagissaient à tout ce qui se passait. Bon, le seul truc qui pourrait poser problème, c'est qu'à la fin de la journée, on avait tous mal à la tête, mal aux oreilles.
Les discours des vétérans, ils étaient très intéressants. Je trouvais que ils avaient une vision qui n'était pas pareille que la nôtre, vu que eux, ils ont vécu le débarquement et que nous, tout ce qu'on a appris, c'est à travers nos cours d'histoire, etc.
Moi, j'ai beaucoup aimé le discours de fin du gagnant du prix Liberté. Il était aussi très touchant parce que c'est une cause qui est importante et voilà.
Je trouvais que la cause qu'il défendait, elle était vraiment, vraiment touchante et que ça se voyait que ça lui tenait vraiment à cœur.
Puis il avait une vision de la liberté qui était intéressante aussi parce que lui, il était conscient qu'il y avait dans le monde pas de la liberté partout.
L'émission Société, on vous en dit plus sur la société.